Audible Studio présente Revival de Stephen King. Traduit de l'anglais États-Unis par Océane Biez et Nadine Gassier. Lu par Lémi Constantine. Ce roman est dédié à ceux qui ont bâti ma maison. Mary Shelley, Bram Stoker, H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith, Donald Wandrei, Fritz Lieber, August Derleth, Shirley Jackson, Robert Bloch, Peter Straub et Arthur Machen, dont le roman Le Grand Dieu Pan m'a hanté toute ma vie. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil des âges peut mourir même la mort. H.P. Lovecraft. Chapitre 1. Ma némésis, les Boches, le lac de la paix. Par un aspect au moins, nos vies ressemblent à des films. Les personnages principaux sont les membres de notre famille et nos amis. Les rôles secondaires sont tenus par nos voisins, nos collègues, des profs et des connaissances. Il y a aussi les petits rôles sans grande importance. La caissière du supermarché avec son joli sourire, le sympathique barman du troquet du coin, les types avec qui vous faites de la gym 3 fois par semaine, et bien sûr, des milliers de figurants. Ces gens qui passent dans la vie de tout un chacun comme de l'eau à travers une passoire, croisés une fois et jamais revus. L'ado qui feuillette les BD chez Barnes & Nobles et que vous devez frôler en murmurant un « excusez-moi » pour pouvoir accéder au magazine. La femme dans la file d'à côté qui profite du feu rouge pour se remaquiller. La mère qui essuie le visage barbouillé de glace de son bambin dans le restaurant routier où vous vous êtes arrêté pour manger un bout. Le marchand qui vous a vendu un paquet de cacahuètes au dernier match de baseball. Seulement parfois, quelqu'un qui n'entre dans aucune de ces catégories fait irruption dans votre vie. C'est le Joker, qui au fil des années sort du jeu à intervalles irréguliers, souvent en temps de crise. Au cinéma, on appelle ce genre de personnage le cinquième emploi, ou l'élément perturbateur. Quand il apparaît dans un film, on sait qu'il est là parce que le scénariste l'a voulu. Mais qui est le scénariste de nos vies? Le destin ou le hasard? Je veux croire que c'est ce dernier. Je veux y croire de tout mon cœur et de toute mon âme. Quand je pense à Charles Jacobs, mon cinquième emploi, mon élément perturbateur, ma némésis, je ne peux supporter de croire que sa présence dans ma vie ait eu quoi que ce soit à voir avec le destin. Cela voudrait dire que toutes ces choses terribles, ces horreurs, devaient arriver? S'il en est ainsi, alors la lumière n'existe pas et notre foi en elle n'est qu'une stupide illusion. S'il en est ainsi, alors nous vivons dans le noir tels des animaux au fond d'un terrier ou des fourmis dans leur fourmilière. Et nous ne sommes pas seuls. Claire m'avait offert une armée pour mon anniversaire et un samedi d'octobre 1962, je me préparais pour une grande bataille. J'ai grandi dans une famille nombreuse, 4 garçons et une fille. Et en tant que petit dernier, je recevais toujours plein de cadeaux. C'était Claire qui faisait toujours les meilleurs cadeaux. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était l'aînée, parce qu'elle était la seule fille, ou les deux. Mais de tous les cadeaux géniaux qu'elle m'a offerts au cours des ans, cette armée fut de loin le plus beau. Il y avait 200 soldats en plastique vert, certains avec des fusils, d'autres avec des mitrailleuses, et une douzaine d'entre eux étaient soudés à des gadgets en forme de tube. Claire disait que c'était des mortiers. Il y avait aussi 8 camions et 12 jeeps. Mais peut-être que le truc le plus cool de cette armée, c'était la boîte qui la contenait. Un coffre en carton couleur camouflage vert et marron, avec « Propriété de l'armée américaine » peint au pochoir sur le devant. En dessous, Claire avait rajouté son propre pochoir, « Commandant Jamie Morton ». C'était moi. Quand j'eus fini de crier de joie, elle expliqua. J'avais vu la réclame au dos d'un des illustrés de Terry. Mais comme il n'a pas voulu que je la découpe, parce que c'est qu'un morveux. « Eh ouais, » dit Terry, il avait 8 ans. « Je suis le morveux Morton. » Et faisant une fourche à l'aide de ses 2 doigts, il se boucha les narines avec. « Ça suffit, » dit maman. « Pas de rivalité entre frères et sœurs les jours d'anniversaire, s'il vous plaît. Merci. Terry, sors-moi ces doigts de ton nez. » « Bref, » reprit Claire, « j'ai recopié le coupon et je l'ai envoyé par la poste. J'avais peur que ça n'arrive pas à temps, mais c'est arrivé. Je suis contente que ça te plaise. » Et elle m'embrassa sur la tempe. Elle m'embrassait toujours sur la tempe. Toutes ces années après, je sens encore ses doux baisers. « Je l'adore !» dis-je en serrant fort le coffre contre ma poitrine. « Je l'aimerai toute la vie !» C'était après le petit déjeuner, pancakes aux myrtilles et bacon, mon préféré. On avait tous droit à nos repas préférés le jour de notre anniversaire, et on ouvrait toujours les cadeaux après le petit déjeuner. Là, dans notre cuisine, avec son poêle à bois et sa longue table, et notre mastodonte de machine à laver qui tombait toujours en panne. « Toute la vie pour Jamie, c'est genre 5 jours, » dit Connie. Il avait 10 ans. Il était mince, bien qu'il ait forci par la suite, et il avait déjà un penchant pour les sciences. « Bien joué, Conrad, » le félicita mon père. Il était en tenue de travail, une combinaison toute propre avec son prénom, Richard, brodé au fil d'or sur sa poche de poitrine gauche. Sur le côté droit, on pouvait lire « Morton Fuel Oil ». « Je suis impressionné. »« Merci, mon papounet. »« Toi et ta grande bouche, vous avez gagné le droit d'aider ta mère à débarrasser le petit déjeuner. »«
Mais c'est le tour de Andy. » »«
C'était le tour de Andy, » le corrigea papa en versant du sirop d'érable sur le dernier pancake. « Attrape un torchon, grande bouche, et tâche de ne rien casser. »«
Il est pourri gâté !»
rouspéta Connie, mais il attrapa un torchon. Connie n'avait pas tout à fait tort quant à ma conception de toute la vie. 5 jours plus tard, le jeu de salle d'opération que m'avait offert Andy ramassait des moutons de poussière sous mon lit. Il manquait des parties du corps, de toute façon. Andy l'avait eu au vide-grenier de la grande Eureka pour 25 cents. Tout comme les puzzles que m'avait offert Terry. Connie, lui, m'avait offert un Viewmaster qui dura un peu plus longtemps, puis finit par atterrir dans mon placard pour ne plus jamais en ressortir. Papa et maman m'avaient acheté des vêtements parce que mon anniversaire tombait vers la fin du mois d'août et que cette année-là, je rentrais en primaire. Pour moi, des nouveaux pantalons et des nouvelles chemises, c'était aussi passionnant que de regarder la mire à la télé. Mais j'ai quand même essayé de dire merci avec enthousiasme. J'imagine qu'ils n'ont pas été dupes. Simuler la joie ne vient pas très naturellement à un gamin de 6 ans, même si, triste à dire, c'est une compétence que l'on acquiert tous assez rapidement. Quoi qu'il en soit, les habits passèrent dans le mastodonte, furent étendus sur la corde à linge dans le jardin, puis pliés et rangés dans les tiroirs de ma commode. Ou, inutile de le préciser, ils restèrent jusqu'à ce que septembre arrive, et le moment de les porter aussi. Je me souviens d'un pull qui était en fait assez chouette, marron avec des rayures jaunes. Quand je le portais, je me prenais pour un super-héros que j'avais appelé la guêpe humaine. « Bandit, prenez garde à mon venin !» Mais Connie avait tort à propos du coffre et de l'armée de soldats. Je jouais avec eux sans arrêt, le plus souvent devant la maison, sur la bande de terre qui séparait notre pelouse de Methodist Road, qui elle-même était une route de terre à l'époque. À l'exception de la route 9 et de la 2 voies qui menait à Goat Mountain, où il y avait un hôtel pour les riches, toutes les routes de Harlow étaient en terre. Je revois ma mère se lamenter de toute la poussière entrant dans la maison les jours secs d'été. Billy Paquette et Al Knowles, mes 2 meilleurs amis, jouaient souvent à la guerre avec moi l'après-midi. Mais le jour où Charles Jacobs a fait son apparition dans ma vie, j'étais seul. Je ne me rappelle pas pourquoi Billy et Al n'étaient pas là, mais je me souviens que j'étais très content de pouvoir jouer tout seul pour une fois. D'abord, j'avais pas besoin de partager l'armée en 3 divisions. Et puis, c'était le plus important, j'avais pas besoin de me disputer avec eux pour savoir à qui c'était le tour de gagner. En vérité, je trouvais ça injuste de devoir perdre moi aussi. C'était mes soldats et c'était mon coffre. Quand je fis part de cette idée à ma mère, par une chaude journée de fin d'été, peu après mon anniversaire, elle me prit par les épaules et me regarda droit dans les yeux, signe incontestable que j'étais sur le point de recevoir une autre grande leçon de vie. Jamie, ces histoires de « c'est le mien, pas le tien » sont la cause de la moitié des problèmes dans le monde. Quand tu joues avec tes amis, les soldats appartiennent à chacun d'entre vous.
Même quand on joue à se battre et qu'on n'est pas du même côté?
Même. Quand Billy et Al rentrent chez eux pour le dîner et que tu ranges tes soldats dans leur boîte,
c'est un coffre.
C'est vrai, leur coffre. Quand vous avez fini de jouer, ils sont de nouveau à toi. Les gens font preuve de beaucoup d'imagination pour être méchants les uns envers les autres. Tu t'en rendras compte quand tu seras plus grand. Mais je pense que tous les comportements malveillants découlent d'un égoïsme pur et simple.
Promets-moi de ne jamais être égoïste, mon garçon. J'ai promis. Mais j'aimais toujours pas que Billy et Al gagnent. Ce jour d'octobre 1962, alors que le sort du monde était suspendu à un fil au-dessus d'une petite bande de terre tropicale appelée Cuba, je combattais des deux côtés de la bataille, ce qui voulait dire que j'allais forcément gagner. La niveleuse de la ville était passée un peu plus tôt sur Methodist Road. Déplacer les cailloux, rouspétait toujours mon père. Et il y avait plein de terres retournées. J'en rassemblais suffisamment pour faire d'abord une colline, puis une grande colline, puis une très grande colline, une qui m'arrivait presque aux genoux. Je pensais d'abord l'appeler Goat Mountain, la montagne aux chèvres. Mais ça me parut tout à la fois banal. Après tout, la vraie Goat Mountain n'était qu'à une vingtaine de kilomètres et ennuyeux. Après mûre réflexion, je décidai de l'appeler Skull Mountain, la montagne du crâne. J'essayai même de lui creuser des cavernes en forme d'yeux avec mes doigts, mais la terre était trop sèche et les trous n'arrêtaient pas de s'effondrer. « Oh, et puis tant pis !» dis-je à mes soldats en plastique renversés dans leur coffre. « Le monde est cruel et vous ne pouvez pas tout avoir !» C'était l'une des expressions préférées de papa, et avec 5 enfants à charge, je suis sûr qu'il avait de bonnes raisons de le penser. On dirait que c'était des cavernes imaginaires. Je disposais la moitié de mes soldats au sommet de Skull Mountain, où ils formaient un régiment redoutable. J'aimais particulièrement l'allure qu'avaient les soldats au mortier là-haut. Eux, c'étaient les Boches. J'installais l'armée américaine au bord de la pelouse. C'est elle qui avait toutes les jeeps et tous les camions parce que ça en jetterait quand ils chargeraient dans la pente abrupte de la montagne. Certains se renverseraient, c'était sûr, mais au moins, quelques-uns d'entre eux réussiraient à atteindre le sommet. Et ils rouleraient sur les soldats au mortier qui imploreraient leur pitié, mais pas de quartier. « À mort !» criai-je en disposant les derniers Américains héroïques. « Hitzmer, t'es le prochain !» J'étais en train de les faire avancer, rangée par rangée, et de faire des bruits de mitrailleuses comme on voit dans les bandes dessinées, quand une ombre s'abattit sur le champ de bataille. Je levai la tête et vis un homme dressé devant moi, silhouette enveloppée de lumière dorée. Il masquait le soleil, une éclipse humaine. Tout le monde était occupé à la maison. Les samedis après-midi, tout le monde faisait toujours plein de trucs. Andy et Connie étaient dans le grand jardin du fond à jouer à 3 ballots de 6 balles basses avec leurs copains, criant et rigolant. Claire était dans sa chambre, elle écoutait des disques sur sa platine Imperial Party Time avec ses copines, The Locomotion, Soldier Boy, Palisades Park. Des coups de marteau venaient du garage où Terry et papa travaillaient sur la vieille Ford 51 que papa appelait la fusée du macadam. Ou le projet. Une fois, je l'ai entendu la traiter de « vieux tas de merde », une expression qui m'enchantait à l'époque et que j'utilise toujours aujourd'hui. Quand ça va pas fort et que vous voulez vous sentir mieux, traiter quelque chose de « vieux tas de merde », en général, ça marche. Beaucoup d'agitation donc, mais à cet instant précis, tout semble à s'arrêter. Je sais que ce n'est que le genre d'illusion due à une mémoire défaillante, sans parler d'une valise remplie d'associations obscures. Mais le souvenir que j'en ai est très fort. Tout d'un coup, plus d'enfants criant dans le jardin, plus de musique venant de l'étage, plus de coups de marteau depuis le garage, pas un seul chant d'oiseau. Puis l'homme se pencha, et le soleil déclinant étincela par-dessus son épaule, m'aveuglant momentanément. Je levai la main pour m'abriter les yeux. « Oh, désolé, » dit-il, en se décalant pour que je puisse le regarder sans avoir à fixer le soleil. En haut, il portait un veston noir du dimanche et une chemise noire avec un morceau de col blanc au milieu. En bas, un blue jean et des mocassins éraflés. C'était comme s'il voulait être 2 personnes à la fois. À 6 ans, je classais les grands en 3 catégories. Les jeunes adultes, les adultes et les vieux. Lui, c'était un jeune adulte. Il avait mis ses mains sur ses genoux pour pouvoir regarder les 2 armées qui se faisaient face. « Vous êtes qui ?» demandai-je. « Charles Jacobs. » Ce nom me disait vaguement quelque chose. Il me tendit la main. Je la serrai aussitôt, parce que même à 6 ans, je connaissais les bonnes manières. Nous les connaissions tous, papa et maman y veillaient. « Pourquoi vous avez un col avec un trou au milieu ?»« Parce que je suis un pasteur. » À partir de maintenant, Quand tu iras à l'église le dimanche, c'est moi que tu verras. Et si tu assistes aux réunions de l'UJM du jeudi soir, tu me verras aussi.
Monsieur Latour était notre pasteur, dis-je, mais il est mort.
Je sais, et j'en suis désolé.
Oh, c'est pas grave, maman dit qu'il a pas souffert, qu'il est allé tout droit au ciel. Mais il portait pas un col comme ça.
C'est parce que Bill Latour était un prédicateur laïque. Ça veut dire qu'il était bénévole en quelque sorte. C'est lui qui s'occupait de l'église quand il n'y avait personne d'autre pour le faire. C'était très généreux de sa part.
Je crois que mon papa y vous connaît, dis-je. Il est diacre à l'église. C'est lui qui s'occupe de la quête. Mais ils font ça chacun leur tour avec les autres diacres.
C'est bien de partager, dit Jacobs en s'agenouillant à côté de moi.
Vous allez prier ?
Cette idée avait quelque chose d'inquiétant. Prier, c'était réservé à l'église et à l'union des jeunesses méthodistes que mes frères et ma sœur appelaient l'école du jeudi soir. Quand M. Jacobs reprendrait les cours de l'UJM, ce serait ma première année, tout comme ce serait ma première année à la grande école.
Si vous voulez parler à mon papa, il est au garage avec Terry. Ils sont en train de changer l'embrayage de la fusée du macadam. Enfin, surtout papa. Terry y fait que lui passer des outils et regarder. Il a 8 ans. Moi, j'ai 6 ans. Je crois que maman doit être en train de regarder les garçons jouer à 3 balles hautes, 6 balles basses.
Qu'on appelait roule-ta-balle quand j'étais petit, dit-il.
Puis il sourit. C'était un beau sourire. Je l'ai aimé tout de suite.
Ah bon? C'est parce qu'il fallait faire rouler la balle jusqu'à la batte une fois qu'on l'avait attrapée.
Comment tu t'appelles, fiston?
Jamie Morton. J'ai 6 ans.
Oui, tu me l'as dit.
Je pense pas qu'on a déjà prié devant la maison.
Et ça ne changera pas aujourd'hui. J'aimerais juste inspecter tes armées de plus près. Qui sont les Russes et qui sont les Américains?
Eh ben, eux, là, par terre, c'est les Américains. Mais ceux qui sont sur Scar Mountain, c'est les Boches. Les Américains doivent prendre la montagne.
Parce qu'elle est sur le passage, dit Jacobs. Derrière Scar Mountain, il y a l'Allemagne.
Oui, et le chef des Boches, Hitzmer.
L'auteur de tant d'horreurs, dit-il.
Hein?
Non, rien.
Est-ce que ça te va si j'appelle les méchants les Allemands? Bosch ne me semble pas très sympathique.
Non, c'est bien, les Boches, c'est des Allemands, et les Allemands, c'est des Boches.
Mon père, il a fait la guerre.
Mais juste la dernière année, il réparait des camions au Texas.
Vous avez fait la guerre, Monsieur Jacobs?
Non, j'étais trop jeune.
Pour la Corée aussi.
Comment les Américains vont-ils prendre la montagne, Général Morton?
Chargez, criai-je. Feu sur les mortiers. Vroom, pam pam pam.
Puis, allant chercher très bas au fond de ma gorge,
taka taka taka.
Une attaque frontale sur les hauteurs me semble risquée, mon général. Si j'étais vous, je séparerais les troupes, comme ceci.
Il déplaça la moitié des Américains sur la gauche et l'autre moitié sur la droite.
Cela crée un mouvement de tenaille, vous voyez?
Il joignit son pouce et son index, afin de mener à bien l'opération par les 2 côtés.
Peut-être, dis-je. J'aimais bien l'idée d'une attaque frontale. Beaucoup d'action et de morts, mais l'idée de M. Jacobs était tout aussi tentante. C'était sournois. Et sournois, c'est parfois excitant.
J'ai essayé de faire des cavernes, mais la terre, elle est trop sèche.
Je vois ça.
Il planta un doigt dans Scar Mountain et regarda la terre s'effondrer et reboucher le trou.
Il se leva et se frotta les genoux. J'ai un petit gars qui s'amuserait sûrement beaucoup avec tes soldats d'ici 1 ou 2 ans.
Il peut jouer maintenant s'il veut.
J'essayais de ne pas être égoïste. Il est où?
Toujours à Boston avec sa mère. Il y a encore beaucoup de choses à emballer.
Ils seront là mercredi, je pense, jeudi au plus tard. Mais Maury est encore un peu jeune pour jouer avec tes soldats. Il se contenterait de les attraper et de les jeter.
Quel âge il a?
Seulement 2 ans.
Je parie qu'il fait encore pipi dans sa culotte, criai-je en me mettant à rigoler.
C'était sans doute pas très poli, mais j'avais pas pu m'en empêcher.
Les petits qui faisaient pipi dans leur culotte, c'était tellement drôle.
Et c'est vrai en plus, répondit Jacobs en souriant.
Mais je suis sûr que ça va passer avec le temps.
Ton père est dans le garage, tu dis?
Ouais. Maintenant, je me rappelais où j'avais déjà entendu le nom de cet homme. Papa et maman, à table, discutant du nouveau pasteur qui arrivait de Boston.
N'est-il pas effroyablement jeune ? Avait demandé ma mère.
Si, et son salaire reflétera son inexpérience, avait répondu mon père.
Puis il avait esquissé un large sourire.
Je pense qu'ils ont dû continuer à en discuter, mais je n'y prêtais plus attention. Andy était en train de se goinfrer de purée, comme d'habitude.
« Et c'est donc la tactique du tir en enfilade, » dit-il en s'éloignant.
« Hein ?
La tenaille, » dit-il en joignant de nouveau son pouce et son index.
« Ah, c'est vrai ! Oui, d'accord !»
J'ai essayé. Ça marchait plutôt bien.
Les boches moururent tous. Mais la bataille n'était pas tellement spectaculaire. Alors, j'ai réessayé l'assaut frontal, avec les jeeps et les camions dégringolant du versant abrupt de Skull Mountain. Plus les boches qui tombaient à la renverse de l'autre côté, en poussant des cris d'agonie et de désespoir.
Ah !
Pendant que la bataille faisait rage, maman, papa et M. Jacobs s'installèrent sous la galerie pour boire du thé glacé et parler de trucs d'église. Car en plus de mon père qui était diacre, ma mère faisait partie du cercle des dames. Pas la présidente, mais celle qui venait juste après. Vous auriez dû voir tous les chapeaux chics qu'elle avait à l'époque. Elle devait bien en avoir une dizaine. Nous étions heureux. Maman appela mes frères et ma sœur, ainsi que leurs amis, pour les présenter au nouveau pasteur. Je commençais à m'approcher aussi, mais M. Jacobs me fit signe de repartir en disant à maman qu'il avait déjà fait ma connaissance.
« Continuez la bataille, général !» me lança-t-il.
Alors, j'ai continué la bataille. Connie, Andy et leurs copains retournèrent dans le jardin de derrière et reprirent leur partie de balle. Claire et ses copines retournèrent à l'étage et se remirent à danser, maman leur ayant quand même demandé de baisser la musique, s'il vous plaît, merci. Et M. et Mme Morton poursuivirent leur conversation avec le révérend Jacobs, et ce pendant un bon bout de temps. Je me souviens avoir souvent été étonné de la capacité des adultes à jacasser.
C'était fatigant.
Mais là, je les avais complètement oubliés, parce que je rejouais la bataille de Skull Mountain de toutes les façons possibles. Dans le meilleur des scénarios, adapté de la tactique de la tenaille de M. Jacobs, une partie des Américains coinçait les Allemands par l'avant pendant que le reste de l'armée contournait la montagne par l'arrière pour leur tendre une embuscade.
« What is this ?»
criait l'un d'entre eux juste avant de se faire tirer dans la tête. Je commençais à me lasser et pensais rentrer manger une part de gâteau, si Connie et ses copains en avaient laissé, quand l'ombre s'abattit de nouveau sur moi et mon champ de bataille. Je levai la tête et vis M. Jacobs, un verre d'eau à la main.
« J'ai emprunté ça à ta mère. Je peux te montrer quelque chose ?»«
Oui. »
Il s'agenouilla et versa l'eau sur le sommet de Skull Mountain.
« Un orage !» m'écriai-je en faisant des bruits de tonnerre.
« Oui, si tu veux.
Avec des éclairs. Maintenant, regarde. »
Il brandit deux doigts, pareils aux cornes du diable, et les enfonça dans la terre humide. Cette fois, les trous ne s'effondrèrent pas.
« Et hop !» dit-il. « Des cavernes !»
Il prit deux soldats allemands et les plaça à l'intérieur.
« Ils ne seront pas faciles à débusquer, général, mais je suis sûr que les Américains seront à la hauteur. »«
Waouh ! Merci !»«
Rajoute de l'eau si tu vois que ça sèche trop vite. »«
D'accord !»«
Et n'oublie pas de rapporter le verre à la cuisine quand tu auras fini le combat. » Je ne voudrais pas avoir de problème avec ta mère dès mon premier jour à Harlow.
Je promis et lui tendis la main.
Serrez-moi la pince, Monsieur Jacobs.
Il sourit et me serra la main, puis s'éloigna sur Methodist Road, en direction du presbytère, où il vivrait avec sa famille durant les trois prochaines années, avant de se faire licencier. Je le regardai partir, puis retournai à Skull Mountain. Avant que je puisse m'y remettre, une autre ombre s'abattit sur mon champ de bataille. Cette fois-ci, c'était mon père. Il posa un genou à terre, prenant garde à n'écraser aucun soldat américain.
« Alors, Jamie, qu'est-ce que tu penses de notre nouveau pasteur ?»«
Je l'aime bien.
Moi aussi.
Et ta mère aussi.
Il est très jeune pour cette charge, et s'il fait du bon travail, on ne fera que lancer sa carrière. Mais je pense qu'il s'en sortira très bien. Surtout avec l'UJM. » La jeunesse appelle la jeunesse.
« Regarde, papa,
Il m'a montré comment faire des cavernes. Il n'y a qu'à mouiller la terre, comme ça, ça fait presque comme de la boue.
Je vois.
Il m'ébouriffa les cheveux. T'iras me décrasser tout ça avant le dîner. Il ramassa le verre.
Tu veux que je le rapporte à l'intérieur pour toi ?
Oui, papa, s'il te plaît.
Et merci.
Il emporta le verre et rentra. Je retournai à Score Mountain seulement pour constater que la terre avait séché et que les cavernes s'étaient effondrées. Les soldats qui se trouvaient à l'intérieur avaient été enterrés vivants.
Moi, ça m'allait, c'était les méchants après tout.
De nos jours, on est terriblement sensibilisé aux histoires d'abus sexuels. Et aucun parent, sain d'esprit, ne laisserait un enfant de 6 ans partir au bras d'un homme récemment rencontré et vivant seul, ne serait-ce que pour quelques jours. Mais c'est exactement ce que fit ma mère le lundi après-midi suivant et sans aucune appréhension. Le révérend Jacobs, maman m'avait dit de l'appeler comme ça et pas « monsieur », arriva par Methodist Road vers 3h15 et frappa à notre porte à moustiquaire. J'étais dans le salon, en train de colorier, allongé par terre, pendant que maman regardait téléphoner ses gagnés. Elle avait envoyé son nom à la chaîne de télé WCSH en espérant gagner le grand prix du mois, un aspirateur Electrolux. Elle savait que les chances de gagner étaient minces, mais comme elle disait, l'espoir est pavé de bonnes intentions. C'était une blague.
« Je peux vous emprunter votre petit dernier pour une demi-heure ?» demanda le révérend Jacobs. « J'ai quelque chose dans mon garage qui pourrait lui plaire. »
« Qu'est-ce que c'est ? » m'écriai-je, déjà en train de me relever.
« Une surprise. Tu pourras tout raconter à ta mère après.
« Maman ?»«
Bien sûr, dit-elle. Mais enlève-moi d'abord tes habits d'école, Jamie. Et pendant qu'ils se changent, vous prendrez bien un verre de thé glacé, révérend Jacobs. »«
Volontiers, dit-il. Et je me demandais si vous pourriez m'appeler Charlie. » Elle envisagea la question, puis dit « Non, mais je peux sûrement essayer Charles. » J'enfilai un blue jean et un t-shirt. Et comme il parlait de trucs d'adulte quand je suis redescendu, je suis sorti attendre le bus scolaire. Connie, Terry et moi, on allait à l'école à classe unique sur la route 9, à 500 mètres à pied de la maison. Mais Andy allait à Consolidated Middle, le collège regroupé, et Claire carrément de l'autre côté de la rivière, à Gates Falls High, où elle était en seconde. « Tant que tu passes pas la seconde avec les garçons, lui disait ma mère, ça aussi, c'était une blague. » Le bus les déposait au croisement de la route 9 et de Methodist Road, au pied de Methodist Hill. Je les vis descendre du bus, et tandis qu'ils se traînaient dans la côte, en se chamaillant comme d'habitude, je les entendais alors que j'attendais près de la boîte aux lettres. Le révérend Jacobs sortit me rejoindre. « Prêt ? » demanda-t-il en me prenant la main. Ça semblait tout à fait naturel.
« Oui ?»
On croisa Andy et Claire en descendant la côte. Andy me demanda où j'allais.
« Chez le révérend Jacobs, dis-je. Il a une surprise pour moi. »«
Ben, sois pas trop long, me dit Claire. C'est ton tour de mettre le couvert ce soir. » Elle lança un regard à Jacobs, puis détourna aussitôt les yeux, comme si elle avait du mal à le regarder. D'ici la fin de l'année, ma grande sœur aurait méchamment craqué pour lui, de même que toutes ses amies.
« Je le ramène bientôt, promit Jacobs.
On descendit la côte, main dans la main, jusqu'à la route 9 qui menait à Portland, si on tournait à gauche, et à Gates Falls, Castle Rock et Lewiston, si on tournait à droite. On s'arrêta pour regarder avant de traverser, ce qui était ridicule, puisqu'à part l'été, il n'y avait quasiment aucune voiture qui passait sur la route 9. Puis on continua, longeant prés à foin et champs de maïs, dont les pieds maintenant desséchés bruissaient dans la douce brise d'automne. Il nous fallut 10 minutes pour arriver au presbytère, une coquette maison blanche au volet noir. Derrière, il y avait la première église méthodiste de Harlow, ce qui était aussi ridicule puisqu'il n'y avait pas d'autre église méthodiste à Harlow. Le seul autre lieu de culte était l'église du Shiloh. Mon père considérait les Shilohites comme des gens modérément à complètement cinglés. Ils ne se déplaçaient pas en calèche, ni rien, mais les hommes et les garçons portaient tous des chapeaux noirs quand ils sortaient. Les femmes et les filles étaient vêtues de robes qui leur descendaient aux chevilles et coiffées de charlottes blanches. Papa disait que les Shilohites prétendaient savoir quand la fin du monde allait arriver. C'était écrit dans un livre spécial. Ma mère disait qu'en Amérique, chacun avait le droit de croire en ce qu'il voulait tant qu'il ne faisait de mal à personne. Mais elle ne disait pas non plus que papa avait tort. Notre église était plus grande que l'église du Shiloh, mais très simple. Et elle n'avait pas de clocher. Elle en avait eu un autrefois, mais un ouragan était passé, en 1920 ou quelque chose comme ça, et l'avait emporté. Le révérend Jacobs et moi remontâmes l'allée en terre du presbytère. Je fus épaté de voir qu'il avait une Plymouth Belvédère bleue. Une voiture super chouette. Boîte de vitesse normale ou automatique? Il parut surpris, puis me fit un grand sourire. Automatique, dit-il. C'est un cadeau de mariage de mes beaux-parents. Est-ce que les beaux-parents, c'est comme les beaux-parleurs? Les miens, oui, dit-il. Et il rit. Tu aimes les voitures?
On aime tous les voitures, dis-je, voulant dire tous dans ma famille.
Sauf que c'était sûrement moins vrai pour maman et Claire. Les femmes ne semblent pas totalement saisir le côté intrinsèquement cool des voitures. Quand la fusée du macadam sera prête, mon papa la lancera sur le circuit de Rock Speedway. Vraiment? Enfin, ce sera pas lui qui pilotera. Maman a dit qu'elle voulait pas parce que c'est trop dangereux, mais quelqu'un d'autre. Peut-être Dwayne Robichaud. Il tient le Brownie Store avec ses parents. L'année dernière, au Speedway, il pilotait la voiture numéro 9, mais son moteur a pris feu. Papa dit qu'il cherche une nouvelle voiture. Est-ce que les Robichaud vont à l'église?
Je prends ça pour un non.
Viens dans le garage, Jamie.
Le garage était plein d'ombre et sentait la moisissure. J'avais un peu peur des ombres et de l'odeur, mais ça ne semblait pas incommoder Jacobs.
Il m'entraîna plus loin dans la pénombre, s'arrêta, puis me montra quelque chose du doigt. J'écarquillai les yeux.
Jacobs lâcha un petit rire, comme font les gens quand ils sont fiers de quelque chose. « Bienvenue au lac de la paix, Jamie. »«
Waouh !»
Je l'ai monté en attendant que Patsy et Maury arrivent. Je devrais m'occuper de la maison, et j'ai déjà fait pas mal de trucs. Réparer la pompe du puits, par exemple. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire tant que Pats n'est pas là avec les meubles.
Ta maman et les autres dames du cercle ont fait un super boulot de nettoyage, fiston. Monsieur Latour faisait la route depuis Oars Island, et personne n'avait habité ici depuis avant la Seconde Guerre mondiale.
Je l'ai déjà remercié, mais tu pourras la remercier à nouveau.
Oui, bien sûr, évidemment, dis-je.
Mais je ne pense pas avoir jamais transmis le message parce que j'entendais à peine ce qu'il me disait. Toute mon attention était accaparée par une table qui occupait presque la moitié du garage. Dessus, il y avait un paysage vallonné verdoyant à côté duquel Score Mountain ne faisait pas le poids. J'ai vu beaucoup de paysages de ce genre depuis, la plupart dans des vitrines de magasins de jouets, mais ils étaient tous sillonnés de trains électriques compliqués. Il n'y avait pas de train électrique sur la table que le révérend Jacobs avait installée, et qui n'était pas une vraie table d'ailleurs, mais des planches de contreplaqué posées sur des tréteaux. Sur le contreplaqué s'étendait une campagne en miniature de près de 3,50 m de long sur 1,50 m de large. Des pylônes électriques de 45 cm de haut la parcouraient en diagonale, et l'élément central était un lac de vraie eau bleue qui luisait même dans l'obscurité.
« Je vais devoir le démonter bientôt, dit-il. Sinon, je ne pourrai jamais faire entrer la voiture. »
Patsy ne voudra rien entendre. Il se pencha, plaqua ses mains sur ses genoux et contempla les collines ondoyantes, le réseau de lignes électriques, le grand lac. Des moutons et des vaches en plastique pâturaient près de l'eau. Ils étaient complètement disproportionnés, mais je ne l'ai pas remarqué sur le moment. Et quand bien même, ça ne m'aurait pas dérangé. Il y avait aussi de nombreux lampadaires, ce qui était quelque peu étrange, puisqu'il n'y avait aucune ville ni aucune rue à éclairer.
« Je parie que tu pourrais mener une sacrée bataille avec tes soldats ici, pas vrai ?»«
Ouais, dis-je, une guerre entière même !»
Il hocha la tête. « Mais ça n'arrivera pas, parce qu'au lac de la paix, tout le monde est ami et il est interdit de se battre. Une fois que j'aurai redémarré les veillées de l'UJM, j'envisage de l'installer dans le sous-sol de l'église. Peut-être que toi et tes frères pourraient m'aider. Je pense que ça plairait aux enfants.
« Ça c'est sûr !» m'exclamai-je.
Puis j'ajoutai quelque chose que mon père disait.
« Un peu, mon neveu !»
Il rit, puis me donna une tape sur l'épaule.
« Tu veux voir un miracle maintenant ?»«
Ah oui, dis-je. »
Je n'en étais pas tout à fait certain. Ça avait quelque chose d'effrayant. Tout à coup, je réalisais que nous étions seuls dans un vieux garage sans voiture,
une cave poussiéreuse qui sentait comme si elle avait été condamnée depuis des années. La porte qui menait au monde extérieur avait beau être restée ouverte, elle semblait située à des années-lumière. J'aimais bien le révérend Jacobs, mais je regrettais soudain de ne pas être resté à la maison, à colorier par terre en attendant de voir si maman allait gagner l'Electrolux et par la même occasion sa bataille sans fin contre la poussière de l'été. Puis, le révérend Jacobs passa lentement sa main au-dessus du lac de la paix et j'en oubliai ma nervosité. Un léger bourdonnement monta de dessous la table, un peu comme le bruit de notre télé Philco quand on l'allumait, et tous les petits lampadaires s'illuminèrent. Ils éclairaient d'une lumière blanche éclatante, presque trop éclatante à regarder, et projetaient une clarté lunaire magique sur les vallées vertes et l'eau bleue. Même les vaches et les moutons en plastique paraissaient plus réalistes, probablement parce qu'ils avaient une ombre à présent.
« Mince ! Comment vous avez fait ?»
Il sourit.
« Pas mal, hein ?»
Et Dieu dit « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Et Dieu vit que cela était bon. Sauf que je ne suis pas Dieu. Je dois donc dépendre de l'électricité. Une invention merveilleuse, Jamie. Un tel don de Dieu que l'on éprouve soi-même une sensation divine à chaque fois que l'on appuie sur un interrupteur. Tu ne trouves pas ?
Peut-être, dis-je.
Mon papy Amos, il se souvient de l'époque d'avant les lumières électriques.
Beaucoup de gens s'en souviennent, dit-il. Mais bientôt, tous ces gens auront disparu. Et quand on en sera là, plus personne n'aura vraiment conscience du miracle qu'est l'électricité, de ce mystère.
On a une idée de son fonctionnement, mais savoir comment quelque chose fonctionne et savoir ce que c'est réellement sont deux choses différentes.
Comment vous avez allumé les lumières ? Demandai-je.
Il désigna du doigt une étagère derrière la table.
Tu vois cette petite ampoule rouge ?
C'est un capteur photoélectrique. Ça s'achète, mais celui-là, c'est moi qui l'ai fabriqué.
Ça projette un rayon lumineux invisible. Quand tu coupes sa trajectoire, les lampadaires tout autour du lac de la paix s'allument. Si je recommence, comme ceci,
il passa sa main au-dessus du paysage et les lumières commencèrent à baisser, diminuant progressivement jusqu'à n'être plus que de faibles points lumineux avant de s'éteindre complètement.
Tu vois ?
Cool, soufflai-je.
Vas-y, essaye.
Je tendis la main. Au début, il ne se passa rien. Mais quand je me dressai sur la pointe des pieds, mes doigts rencontrèrent le rayon lumineux. Le bourdonnement reprit et les lumières se rallumèrent.
C'est moi qui l'ai fait ?
Un peu, mon neveu, dit-il,
et il m'ébouriffa les cheveux.
C'est quoi ce bruit ?
On dirait notre télé.
Regarde sous la table. Attends, je vais allumer la lumière pour que tu y vois mieux.
Il appuya sur un interrupteur et deux ampoules poussiéreuses s'allumèrent.
Ça ne changea rien à l'odeur de moisissure, et je sentais même une autre odeur, une odeur chaude et huileuse. Mais la pénombre se dissipa. Je me baissai, à mon âge, je n'avais pas besoin de me baisser beaucoup, et regardai sous la table. Il y avait deux boîtiers fixés en dessous. C'est de là que venait le bourdonnement et l'odeur huileuse aussi.
Des piles, dit-il,
que j'ai aussi fabriquées moi-même. L'électricité est ma passion.
Et les gadgets ?
Il sourit comme un enfant.
J'adore les gadgets. Ça rend mon épouse folle.
Moi, ma passion, c'est de combattre les Boches, dis-je. Puis me rappelant ce qu'il avait dit, les Allemands, je veux dire.
Tout le monde a besoin d'une passion, dit-il. Et tout le monde a besoin d'un petit miracle ou deux, juste pour se prouver que la vie est plus qu'un long pèlerinage du berceau à la tombe.
Tu aimerais en avoir un autre, Jamie ?
Oh oui !
Il y avait une deuxième table dans le coin, couverte d'outils, avec des morceaux de fil électrique, trois ou quatre transistors démontés, comme ceux qu'avaient Claire et Andy, et des piles C et D achetées en magasin. Il y avait aussi une petite boîte en bois.
Jacobs prit la boîte, posa un genou à terre pour être au même niveau que moi, l'ouvrit et en sortit une figurine en tunique blanche.
Tu sais qui c'est ?
Je savais, oui, parce que le bonhomme ressemblait à ma lampe de chevet fluorescente.
Jésus. Jésus avec un sac à dos.
Et pas n'importe quel sac, un sac à piles.
Regarde.
Il souleva le couvercle du boîtier fixé à un gond pas plus gros qu'une aiguille à coudre. À l'intérieur, il y avait ce qui ressemblait à deux pièces de 10 cents brillantes avec de minuscules points de soudure. Ça aussi, c'est moi qui l'ai fabriqué. On ne trouve rien d'aussi petit ni d'aussi puissant dans les magasins. J'imagine que je pourrais déposer un brevet, et peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais... Il secoua la tête. Peu importe. Il referma le petit couvercle et emmena Jésus jusqu'au panorama du lac de la paix. « J'espère que tu as remarqué à quel point l'eau est bleue, » dit-il.
« Ouais, le lac le plus bleu que j'ai jamais vu !»
Il acquiesça. Un petit miracle en soi, pourrait-on dire, jusqu'à ce que l'on y regarde de plus près.
Hein ?
Ce n'est que de la peinture. Je médite là-dessus quelquefois, Jamie. Quand je n'arrive pas à dormir, comment un peu de peinture peut donner de la profondeur à quelque chose qui n'en a pas ? C'était une drôle d'idée de penser à un truc comme ça, mais je n'ai rien dit. Puis il parut sortir de sa rêverie et posa Jésus au bord du lac. Je pense l'utiliser avec l'UJM. C'est ce qu'on appelle un outil pédagogique. Mais je vais te faire une petite démonstration d'abord. OK ?
OK.
Voici ce qui est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 14. Sauras-tu faire bon usage de la parole sacrée de Dieu, Jamie ?
Oui, je crois, dis-je, commençant à me sentir de nouveau mal à l'aise.
Je suis sûr que oui, dit-il, parce que ce que nous apprenons, enfants, c'est ce qui reste ancré en nous le plus longtemps.
OK, j'y vais alors. Écoute bien.
Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder. Ça veut dire passer devant, sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier.
Est-ce que tu pries, Jamie ?
Ouais, tous les soirs.
C'est bien, mon garçon.
OK, reprenons notre histoire. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez crainte. » Voilà l'histoire, et que Dieu bénisse sa parole sacrée.
Pas mal, hein ?
J'imagine, ouais.
Est-ce que bouleverser, ça veut dire avoir peur ?
C'est ça, pas vrai ?
Dans cette histoire, oui. Tu veux voir Jésus marcher sur le lac de la paix ?
Oui, je veux.
Il passa une main sous la tunique blanche de Jésus, et la petite figurine se mit à marcher. Quand il atteignit le lac, il ne coula pas, mais continua d'avancer sereinement, glissant à la surface de l'eau. Il le traversa en 20 secondes environ. De l'autre côté, il y avait une colline qu'il essaya de grimper, mais je voyais bien qu'il allait tomber à la renverse. Le révérend Jacobs le rattrapa avant. Il repassa sa main sous la tunique de Jésus et l'éteignit.
« Il l'a fait, dis-je. Il a marché sur l'eau. »
« Eh bien !» Jacobs souriait, mais c'était pas un sourire amusant. Bizarrement. Ça lui tirait un coin de la bouche vers le bas.
Oui et non.
Pourquoi ? Tu vois là où il est entré dans l'eau ?
Oui.
Vas-y, mets ta main. Tu verras. Fais attention à ne pas toucher les lignes électriques, parce qu'il y a vraiment de l'électricité qui passe. Pas beaucoup, mais si tu les effleures, tu prendras un petit coup de jus. Surtout si tu as la main mouillée. Je fis comme il me disait, très prudemment. Je savais qu'il ne me ferait pas de blagues, comme Terry et Connie le faisaient parfois. Mais j'étais dans un endroit inconnu, avec un inconnu, et je n'étais pas complètement rassuré. L'eau avait l'air profonde, mais c'était une illusion créée par le fond du réservoir peint en bleu et les lumières se reflétant à la surface. Mon doigt ne s'enfonça que jusqu'à la première phalange. « Tu n'es pas tout à fait au bon endroit, » dit le révérend Jacobs. « Décale-toi un peu sur la droite. »
Tu connais ta gauche et ta droite.
Je les connaissais. Maman m'avait appris. La droite, c'est la main avec laquelle tu écris.
Bien sûr,
Ça n'aurait pas marché avec Claire et Connie, qui étaient ce que mon père appelait des pattes d'ouest. Je décalai ma main et sentis quelque chose sous l'eau. Quelque chose de métallique, avec un sillon au milieu.
« Je crois que j'ai trouvé, » dis-je au révérend Jacobs.
« Je crois aussi. Tu es en train de toucher le rail sur lequel marche Jésus. »«
C'est un tour de magie ?» m'écriai-je.
J'avais déjà vu des magiciens à l'Ed Sullivan Show, et Connie avait eu une boîte de tours de magie pour son anniversaire, mais il avait tout perdu à part les balles flottantes et les œufs invisibles.
« C'est exact. »
« Comme Jésus qui marche vers la barque ?»«
Parfois, dit-il, j'en ai bien peur, oui. » Il avait l'air tellement triste et perdu que je recommençais à avoir un peu peur, mais j'avais aussi de la peine pour lui. Non pas que j'aie la moindre idée de la raison pour laquelle il aurait dû se sentir triste, surtout avec un pays imaginaire aussi génial que le lac de la paix dans son garage. « Il est trop bien ce tour de magie, dis-je, en lui caressant la main. » Il sortit de sa rêverie et me sourit.
« Tu as raison, dit-il.
Je crois que ma femme et mon petit garçon me manquent. Voilà tout. Je pense que c'est pour ça que je t'ai emprunté à tes parents, Jamie. Mais il est temps que je te rende à ta maman maintenant. »
Quand on arriva à la route 9, il me prit à nouveau par la main, bien qu'il n'y eût pas la moindre voiture, et l'on marcha comme ça tout le long de Methodist Road. Ça ne me gênait pas. J'aimais bien lui tenir la main. Je savais qu'il faisait attention à moi. Madame Jacobs et Maury arrivèrent quelques jours plus tard. Lui n'était qu'un microbe en couche-culotte, mais elle était jolie. Le samedi, la veille du premier sermon du révérend Jacobs dans notre église, Connie, Terry et moi l'aidâmes à déplacer le lac de la paix au sous-sol de l'église, où l'Union des jeunesses méthodistes se retrouvait le jeudi soir. Sans eau, l'absence de profondeur du lac et le rail étaient évidents. Le révérend Jacobs fit promettre à Terry et Connie de garder le secret, parce qu'il ne voulait pas gâcher la surprise aux petits, leur dit-il, ce qui me fit me sentir grand, une sensation que j'aimais. Ils acceptèrent, et je ne pense pas qu'ils aient cafeté. Mais les lumières du sous-sol de l'église étaient bien plus puissantes que celles du garage du presbytère, et en se tenant tout près du paysage et en observant bien attentivement, on pouvait voir que le lac de la paix n'était en fait qu'une grande flaque d'eau. On pouvait voir le rail aussi. À l'approche de Noël, tout le monde savait.
« C'est pour de faux !» me dit Billy Paquette, un jeudi après-midi.
Lui et son frère Ronnie détestaient l'école du jeudi soir, mais leur maman les forçait à y aller.
« S'il frime encore une seule fois avec ça et nous ressort son histoire de marcher sur l'eau, je vais dégobiller !»
J'ai pensé me battre avec lui à cause de ce qu'il venait de dire, mais il était plus grand que moi, et c'était mon ami. Puis, il avait raison aussi.